parabole du jour avec le Père Willem.
Vivre malgré tout. Nombreux sont ceux qui refusent l'échec du choix, d'un choix qu'ils ont fait. Nombreux aussi sont ceux qui refusent l'idée de choix, soit parce qu'ils doutent de leur propre liberté, soit parce que, bien souvent, ils croient savoir qu'autrui n'a pas de choix. Il ou elle ne peut rien. C'est l'hérédité, l'absence de volonté, la psychogénéalogie, le déséquilibre psychologique, etc. Certains êtres seraient tellement déterminés par ce qui leur est arrivé, ce dont ils ont hérité et ce dont ils sont faits, que la parole biblique ne leur serait en aucune façon destinée. Il arrive qu'on le dise aussi après un suicide, il ou elle n'a pas eu le choix. Le risque alors est d'en arriver à déresponsabiliser tout le monde. Car où s'arrêter ? Selon quels critères décidera-t-on que quelqu'un a le choix ou ne l'a pas ? La pensée hébraïque, elle n'a que faire d'une liberté théorique abstraite. Elle pose la question dans le concret de chaque existence individuelle. Aujourd'hui, maintenant, en cet instant, que choisis-tu ? Avec tout ce que tu portes en toi, qui t'a façonné jusqu'ici, que décides-tu pour ce moment présent qui t'est donné, ce moment comme un présent ? Et la question se pose chaque jour à chacun, chacune, à moi, à toi. La Bible ne cherche pas à savoir si l'être humain est libre dans l'absolu de choisir entre la vie et la mort, car il faudrait être Dieu pour répondre à une telle question. La Bible voit en tout être humain un sujet parlant, un jeu, à qui le jeu divin adresse la parole. Quels que soient tes conditionnements, tu auras toujours devant toi la bénédiction et la malédiction. Et je reste à l'affût de la réponse que tu choisiras à chaque heure de ton existence. Sitôt qu'on renonce à l'idée d'une liberté absolue, on s'aperçoit que le choix de vivre s'entretient au quotidien. Il n'est jamais acquis une fois pour toutes. C'est donc ainsi, en ce sens, que l'humain se fait veilleur. Or, une liberté aussi précaire s'accorde à merveille avec l'éloge évangélique de la petitesse. Jésus ne parle-t-il pas fréquemment de semences, de graines, de petites graines de moutarde, de tout petits, de grains de sel, de petites choses parfois insignifiantes qui ont de l'importance à ses yeux et par lesquelles il révèle ce qui est essentiel pour l'être humain. Voilà de quoi éclairer la formule étrangement binaire de cette parole biblique. J'ai donné devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. C'est qu'on se retrouve là devant un choix radical. Il n'existe pas d'entre deux. Soit on se dirige vers la vie, donc vers la vie relationnelle, soit on se dirige vers la mort, donc vers l'abolition de tout bien et de tout lien. On peut objecter qu'une bonne maturation psychique et spirituelle suppose le renoncement ou tout au rien. Mais c'est autre chose qui se dit dans le texte. Le Dieu biblique différencie de manière radicale la vie et la mort afin d'éradiquer toute confusion possible. Car aucun compromis n'est possible entre la vie et la mort. Aussi, minimise-t-il ce qui est petit, mais mon choix m'oriente déjà sur le chemin qui me mène au vivant, à la vie ou sur l'autre chemin. Mais c'est à travers de petites choses de la vie, les petits riens de la vie, que se révèlent mes possibilités d'avancer. Nombreux sont ceux et celles qui vivraient mieux s'ils se sentaient pris au sérieux, si leurs paroles avaient du poids au travail, dans leur famille, leurs activités sociales, politiques, ecclésiales, associatives. Nous pourrions même dire qu'on aime la vie, la société, l'environnement, dans la mesure où l'on y a sa place et où l'on sait qu'on a quelque chose à y faire. On développe alors avec bonheur le sens de sa propre responsabilité. Une bienheureuse alchimie se crée entre la parole et l'acte, un peu à l'image de ce qui se passe pour Dieu en Genèse, qui nous rappelle ceci: il dit et il fait. Pourtant, trop souvent, nous disons et rien n'advient. Oui, nous disons et rien n'est là. C'est que plus la parole émane d'un être unifié, pacifié, plus elle a de chances d'avoir du poids. On peut envier ceux et celles qui ont une autorité naturelle, mais il y a bien souvent la difficulté d'assumer ce que l'on est soi-même. On peut aussi penser qu'elle s'acquiert progressivement, cette intériorité. De nombreux livres aujourd'hui invitent à développer son impact sur les autres, à accroître son pouvoir de conviction, mais de pouvoir à une prise de pouvoir, le risque de dérapage est grand. Or, au fond, nous espérons à nous faire entendre et non à prendre le pouvoir sur les autres pour nous faire entendre. À tout âge peut s'éveiller le désir d'accéder à une autorité personnelle respectueuse à la fois de soi-même et d'autrui. C'est que tout être humain a besoin de recevoir tôt ou tard l'autorisation de parler en je responsable, d'être respecté dans ce je irremplaçable. Désir qui peut advenir tard dans la vie, selon les interdits qui ont muselé, parfois très jeune, tant d'interdits qui ont rendu la vie difficile. Bonheur de se sentir enfin autorisé à parler, reconnu auteur de sa vie et de son devenir, puisque les deux mots ont une même racine. L'arbre se reconnaît à ses fruits. La personne qui fait l'expérience d'une telle intériorisation et d'une telle autorisation libératrice découvre en elle une autorité qu'elle ne se connaissait pas. Les autres sentent qu'elle est entière, cette autorité, dans celle qui dit et qui fait. Elle devient à son tour autorisatrice pour ceux et celles qui réduisent au mutisme ce qu'on est encore incapable de changer pour vivre mieux. Or, en observant l'évolution de l'autorité dans la société occidentale, on peut voir à l'œuvre le désir grandissant de devenir auteur de sa vie aussi bien personnelle, familiale que publique. Parallèlement, on entend encore beaucoup de tristesse et de lamentation sur le thème « L'autorité n'est plus ce qu'elle était. Elle ne va plus de soi, ni dans la famille, ni à l'école, ni dans les institutions sociales, politiques, religieuses, ni même dans le monde de l'information. Perte d'autorité se conjugue de plus en plus avec perte de crédibilité. On peut se réjouir que chacun se trouve renvoyé à un travail sur sa propre autorité. Mais où trouve-t-on désormais des autorisateurs ? Il peut être utile de revisiter les textes des évangiles où Jésus accède à sa propre autorité et devient autorisateur pour l'entourage. Nous pourrons ainsi entrevoir les fruits d'une authentique autorité pour un meilleur vivre ensemble.
Je ne peux plus rien dire. manquer.